La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure, comme chaque jour, de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag.
Lutter contre la disparition des commerces dans les villages, c'est l'objectif Elisabeth de Comptoir de Campagne et c'est donc la solution aujourd'hui.
Oui, parce qu'un commerce sur deux met la clé sous la porte hein, dans les campagnes et pour lutter contre la désertification des commerces dans les milieux ruraux, Comptoir de Campagne ouvre des lieux multiservices où l'on trouve des produits frais, locaux, issus des circuits courts comme un bureau de poste, une maison de la presse, un café ou encore un service de pressing, le tout à des prix accessibles et dans des petits villages dépourvus de commerce de proximité. Il y a un double objectif, hein, éviter leur désertification et recréer du lien social. Bonjour Virginie Hills.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez créé cette entreprise, hein, Comptoir de Campagne, en 2016, hein, je crois, c'est ça. Comment est née l'idée ?
Alors l'idée est née effectivement de cette problématique qu'un village sur deux n'a plus de commerce en France. Voilà, moi mon parcours c'est la grande distribution, le marketing agroalimentaire et je me disais qu'il y avait quelque chose à faire autour de ça, du partage de la valeur plus équitable entre les producteurs et les transformateurs et la recréation du lien social.
Donc vous êtes dit, je vais intervenir, je vais monter mon entreprise. Alors comment elle marche ? Comment ça marche déjà ?
Alors oui, voilà, effectivement, ma volonté c'était de mettre mes compétences au profit de savoir-faire artisanaux. On est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est important de le dire. C'est pour ça qu'on fait ce projet-là, pour revitaliser les zones rurales. Donc effectivement, on s'est dit, si une épicerie traditionnelle n'a plus de marché, un restaurant n'a plus de marché, un bureau de poste n'a plus de marché dans un village, si on mettait tous ces produits et services sous un même toit pour les rendre accessibles à la population et avoir un modèle économique qui tienne la route, des commerces pérennes, pour que des entrepreneurs indépendants puissent créer leur propre commerce dans tous les villages de France.
Donc c'est quoi ? Ce sont des lieux de vie ? Ça ressemble à quoi ?
C'est ça, exactement. C'est à la fois des épiceries locales, mais dans lesquelles il y a également un petit espace, salon thé, snacking, bar convivial, dans lequel on peut faire des animations, prendre un café, mais aussi manger une planche de pays. Voilà, donc c'est un lieu multi-service avec de la vie et effectivement des produits, des services, la poste, pressing, cordonnerie, repassage.
Vous êtes présent où là actuellement ?
Alors on a démarré en Auvergne-Rhône-Alpes, on a 9 comptoirs en Auvergne-Rhône-Alpes, mais on discute aujourd'hui beaucoup avec pas mal de régions en France pour apporter cette solution sur tous les territoires français.
Donc de là, vous allez peut-être créer une franchise de comptoirs de campagne.
Effectivement, notre projet c'est de démarrer un modèle de franchise. Cette année, en septembre 2020, notre première franchise va être lancée. Et donc, je lance un appel à tous les porteurs de projets qui ont envie de créer des comptoirs dans leur village. Nous, on est là pour leur apporter un concept, un conseil, les accompagner dans cette démarche.
Le coach, Luc Le Sénécal.
Donc vous en avez déjà créé 7, hein, c'est ça ?
9.
9 en succursale, donc c'est vous qui les gérez.
Pour l'instant, ce sont les magasins
propres.
Mais
est-ce que vous allez identifier autour de plusieurs marques ? Ça va être des marques nationales ou parce que c'est un concept très local. Donc
alors
comment vous pensez franchiser ça ?
C'est une enseigne qui s'appelle Comptoir de Campagne. Voilà, donc nous on crée cette enseigne, on a déposé la marque et c'est une enseigne dont des indépendants peuvent se saisir avec le concept qui va derrière et l'accompagnement.
Ce concept-là, c'est l'épicerie, le café,
c'est le concept multiservice.
Est-ce qu'il est évolutif en fonction du lieu où il se trouve.
Exactement, il s'adapte à l'offre existante. On ne veut pas faire de concurrence, donc en fonction du lieu, on déploie une offre complémentaire de l'offre des existantes. Donc il faut qu'on fasse une étude de marché pour savoir si l'offre que l'on peut déployer dans ce territoire suffit pour que le commerce soit pérenne et qu'il dégage une activité suffisante.
Si vous vous installez en Bretagne, on peut imaginer trouver une crêperie dans un comptoir de campagne, estampillé comptoir de campagne.
Alors non, puisque le concept c'est essentiellement une offre d'épicerie locale en circuit court.
Ou des produits
issus
de la région.
Et après, il y a un petit espace snacking, salon thé. Et effectivement, si le commerçant veut faire des crêpes, il fera des crêpes. Mais avant tout, ce sera une épicerie avec un espace snacking, salon thé.
Mais l'épicerie, les produits vendus dans l'épicerie sont des produits locaux. De la marque, d'une marque de locale ou ce seront des produits de marque comptoir de campagne ?
Non, ce sont des produits locaux. Alors ça, c'est la spécificité de comptoir de campagne. On a une organisation en grappe. Quand on s'installe sur un territoire, on implante 5 à 6 comptoirs et nous, on a un salarié qui est approvisionneur circuit court, qui référence l'ensemble des producteurs. Alors, ce n'est pas une centrale d'achat puisqu'on est en circuit court, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de marge sur la vente de ces produits. Les magasins qui achètent en direct, mais nous, on apporte un service d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'on référence les produits, les producteurs, et on les livre dans les magasins, en achalant les magasins, on fait en sorte qu'ils soient approvisionnés en temps et en heure.
Comment vous faites rémunérer si je suis franchisé ?
Alors, si vous êtes franchisé, voilà, si vous avez envie d'intégrer le concept, nous on vous apporte un accompagnement, et donc pour ça, pour se faire rémunérer ce service, c'est un pourcentage de, du chiffre d'affaires des magasins.
Une fois que vous êtes implanté, avec vos 9 comptoirs par exemple, vous avez redynamisé le tissu local. Il y a des choses qui ont pu rouvrir, par exemple
Oui, oui. Alors déjà, on est souvent, c'est à la demande de la mairie, en fait, qu'on étudie le village. C'est une vraie demande de ces maires qui sont à tête de cité dortoir. Et quand on s'installe dans un comptoir, les maires nous disent systématiquement, le village revit, il y a de nouvelles initiatives qui se créent parce que les gens se rencontrent, se parlent. Et voilà, il y a une nouvelle dynamique. Donc ça, c'est très important pour nous. Et donc, on travaille effectivement main dans la main avec la collectivité.
Il y a un comptoir qui a particulièrement marché et avec quel type de produits ou quel type de rencontres ?
Les produits, le gros de notre activité, ça reste quand même l'épicerie locale. Mmh. C'est ça qui amène le chiffre, c'est ça qui fait venir les gens, parce que c'est ce qui est le plus simple, le plus habituel. Donc notre comptoir historique, c'est le comptoir de Chandieu, où on a démarré avec un contrat tripartite avec La Poste, puisqu'en fait, on a repris les services de La Poste et on a complété l'offre de La Poste avec des produits locaux en circuit court. On vend des billets de train. Donc, bien sûr, notre comptoir de cœur, c'est le comptoir historique, c'est le comptoir pilote à Chandieu, dans la Loire.
Et ça s'appelle Comptoir de Campagne. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette très belle solution qui va permettre de revitaliser nos campagnes et, comme vous le disiez, nos cités dortoirs.
Il est midi 57.
Europe 1.
On reste ensemble. Vous suivez peut-être les transferts au jour le jour. Eh bien, c'est de foot qu'on parle aujourd'hui en cette fin de mercato d'hiver parce que les Français ne sont pas que sur la pelouse. En coulisses, des acteurs bougent aussi pour faire entrer les innovations tricolores sur les terrains. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 14h. Et aujourd'hui, pour les sportifs, c'est une journée particulière puisque vous le savez peut-être, le mercato d'hiver s'achève ce soir. On saura qui change de club avec parfois des sommes mirobolantes. Mais du changement, il peut aussi y en avoir en coulisses et on a voulu vous montrer que derrière les clubs, les équipes, les joueurs, il y a dans l'ombre des Français qui travaillent pour que les innovations tricolores soient reconnues à leur juste valeur. Bonjour Stéphane Raymond.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci d'être avec nous, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes le fondateur de Smart Power. Alors, vous avez fait du foot quand vous étiez un peu plus jeune, 18 ans, 20 ans. Mais vous êtes resté un vrai sportif assidu. En 2013, vous quittez Michelin parce que vous étiez directeur dans le Sud, et vous vous dites, je vais mettre finalement mon expérience au service du sport. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire dupliquer la fonction d'un pneumatique pour un sportif, puisque notre rôle, c'est maintenant de transmettre la puissance du sportif du terrain à ses performances. Et un concurrent de Michelin disait, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Nous sommes vraiment sur ce créneau-là.
Donc, vous pensez forcément aux crampons, c'est-à-dire les pneus, finalement, des chaussures de footballeur.
Exactement. Le crampon, le pneumatique est à la voiture, ce que le crampon est au joueur. Et donc, nous avons développé le premier crampon orientable au monde. Alors, je parle bien du crampon et non pas de la chaussure. Nous sommes le pneumatique et non pas la voiture.
D'accord. Donc, le crampon, c'est ce qui se trouve sous la chaussure. C'est ce qui permet au footballeur, quand il court sur le terrain, de pouvoir être vraiment en phase avec la pelouse, hein, de ne pas glisser notamment, même si ça arrive. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça change tout, finalement ?
Alors, en fait, après 3 ans et demi de recherche et développement, grâce aux technologies d'impression 3D, nous avons fait beaucoup d'essais. Nous avons développé ce crampon qui est orientable. Et donc, selon l'orientation que vous donnez sous la chaussure, vous lui changez sa fonction.
Ça veut dire que quand mon pied part sur le côté, le crampon va suivre ?
Alors non, pas en dynamique, mais selon votre sport, selon votre poste, selon votre biomécanique, vous allez pouvoir choisir une configuration et orienter vos crampons différemment.
Ça signifie que si je suis avant-centre par exemple ou défenseur, je ne vais pas utiliser les mêmes crampons ?
Exactement. Alors les mêmes crampons, si, vous allez choisir différentes longueurs, mais vous allez les orienter différemment, puisque sous le pied, les crampons avant n'ont pas la même fonction que les crampons intermédiaires ou arrière. Donc on va vous proposer une configuration, orienter les crampons différemment selon votre besoin spécifique.
Alors vous avez fait des essais, je crois, avec notamment des équipes de Ligue 1. Le résultat, c'est quoi ? L'amélioration des déplacements ? On gagne du temps ?
Alors voilà, il y a 3 volets. Notre crampon améliore les performances. On annonce 42 cm de gagné sur 20 mètres en accélération, ce qui permet de gagner un duel ou pas. On annonce dans le rugby quasiment jusqu'à 10% de poussée en plus dans la mêlée. Ça, c'est le volet performance. Et puis quasiment plus de glissade, sans bloquer le pied. Le deuxième volet, c'est la diminution de la fatigue musculaire, puisqu'on a fait une étude scientifique avec Véronique Bia et le Stade de Reims, où on a démontré que nous diminuons la fatigue musculaire. Et puis le troisième argument, c'est le fait de s'adapter à chaque joueur.
Aujourd'hui, combien de joueurs de Ligue 1, de Ligue 2 sont équipés de ces crampons?
On équipe à peu près une soixantaine de joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2, et en top 14 et World Rugby, on a des ambassadeurs très prestigieux, puisque nous avons Mathieu Bastaro, nous avons des All Blacks, nous avons l'équipe du Japon, des joueurs dans l'équipe d'Angleterre, enfin voilà, on a vraiment de beaux ambassadeurs et ambassadrices, puisque nous avons le plaisir de compter parmi nous des rugby women et des footballeuses, dont Marion Thauran en équipe de France.
Alors, si vous êtes avec nous sur Europe1.fr, vous les voyez, ces crampons, il y en a deux sortes, évidemment. Hein. Il y a les crampons en plastique et puis il y a ceux en aluminium. Quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'il y a deux types de crampons et, vous avez travaillé différemment sur les deux?
Alors, on revient à l'analogie avec les pneumatiques. Vous imaginez bien que si vous montez en station d'hiver, vous n'avez pas les mêmes pneus.
Il faut les pneus neige.
Exactement. Vous serez en sécurité, vous serez éventuellement plus performant, même si ce n'est pas l'objet sur la route. Donc, vous avez différentes longueurs de crampons pour différentes utilisations et types de terrain.
Notre coach, Luc Le Sénécal.
Oui, j'ai deux questions. Un comparatif avec les pneus, mais est-ce que dans le foot ou le rugby, les crampons sont homologués? Parce que là, vous apportez, j'ai bien compris, une fonctionnalité différente, une performance différente. C'est homologué?
Alors, il n'y a pas d'homologation. Par contre, il y a une conformité à avoir, à la fois chez World Rugby et à la fois à la FIFA, où nous avons passé des tests en laboratoire pour démontrer que le crampon n'était pas dangereux. Donc voilà, vous avez toute une batterie de tests à passer, bien entendu.
Et ma deuxième question, est-ce que vous avez pensé à vous associer avec des leaders de fabricants de chaussures de foot pour accélérer votre développement?
Bien évidemment, nous sommes très favorables à travailler avec des marques.
Mais vous le faites déjà?
Alors nous avons des contacts, mais vous imaginez bien que des marques comme ça ont besoin de temps pour voir la réaction de nos produits sur le marché. Mais nous avons des contacts.
Vous avez besoin que ce soit déjà bien testé, bien approuvé pour venir vers vous.
Oui.
Justement, les chaussures, c'est le joueur qui décide de mettre vos crampons. Comment ça se passe? Il y a un accord? Il peut y avoir un accord avec le club?
Alors, principalement, ce sont des accords avec les joueurs, mais nous sommes très favorables à trouver un accord avec un club. Nous avons été partenaires de l'AS Saint-Étienne durant un an. Donc, nous serions ravis de rejoindre à nouveau un club de Ligue 1 et de Top 14.
Stade Malherbe de Caen.
C'est le Normand qui s'exprime. Hein. Moi, j'aurais dit le Sporting Club de Bastia ou l'OM, mais bon.
Et de mémoire, nous avons des joueurs de Caen. Enfin, je crois qu'il y a un ou deux joueurs de Caen qui portent aujourd'hui nos crampons, oui.
Vous aviez fait une première levée de fonds, je crois, en 2017. Il y en a une nouvelle qui est prévue?
Alors, il y en a une nouvelle qui a été faite récemment, puisque nous avons eu le plaisir de passer dans l'émission qui veut être mon associé sur M6. On a été diffusé mardi.
Oui.
Où on a eu le plaisir d'accueillir Marc Vanov, le dirigeant et créateur des Bistrots Régents, sponsor des Girondins de Bordeaux. Alors peut-être qu'il investira au Stade Malherbe.
Probablement, effectivement.
J'espère. Alors ça prend toujours temps.
Au pied des Bordelais.
Bien sûr, j'espère.
Hein, ça semble assez logique. L'idée, c'est quoi? C'est d'accélérer justement avec cette levée de fonds?
Oui, dans le domaine du sport, la visibilité et le marketing est extrêmement important et il est compliqué d'être visible face à des multinationales. Donc cette levée de fonds, elle est là-dessus. Et puis l'ambition, puisqu'on aime à le rappeler, l'ambition est de devenir le leader mondial du crampon sportif. Ce qui veut dire qu'on a démarré par le rugby. Nous sommes aujourd'hui très présents dans le football. Nous avons équipé des athlètes dans l'athlétisme avec des pointes. Nous sommes champions de France de décathlon et nous équipons pour le meeting de Paris ce week-end normalement un athlète. Il y a le golf, il y a l'équitation.
Oui, donc il y a vraiment un panel très large pour vous. 200 000 crampons par an, c'est ça?
Au moins.
Au moins. Aujourd'hui, vous en fabriquez une partie en France, ceux qui sont en plastique. Les autres sont fabriqués en Chine. Vous dites, on n'a pas trouvé de partenaire.
Exactement. Ça a été une réelle
décision. Pas de partenaire sur l'alu.
Oui. Même européen. En fait, d'après ce qu'on a compris, c'est passé une crise dans l'automobile, puisque j'en viens aussi. Les fonderies ont eu beaucoup moins d'activité. Et puis l'activité de l'automobile est repartie et les fonderies se sont retrouvées avec des carnets de commandes complets. Donc du coup, ça n'a même pas été une question de prix, c'est qu'on ne m'a pas répondu.
Donc aujourd'hui, si demain quelqu'un vous répond, vous seriez prêt à travailler en France?
Je serais ravi de faire du Made in France parce que ça reste quand même parmi nos grandes valeurs.
Très bonne nouvelle.
On est bien d'accord. Elisabeth, vous avez trouvé d'autres équipementiers 100% Made in France pour, tiens, les gants de gardien par exemple.
Oui, il fallait y penser quand même, les gants de gardien. Parce que le marché du matériel de gardien de but progresse de plus en plus. Et les équipementiers aussi s'améliorent. Certains se lancent même dans cette course pour venir concurrencer, là aussi, les gros. Ils sont fabriqués par Orzal Sport, ces gants de gardien. Ils existent depuis 2016 et c'est une marque qui a été créée par des gardiens de but passionnés.
Et des protège-tibias aussi.
Oui, ça s'appelle Virtus Football. C'est une start-up lyonnaise. Ce sont les premiers protège-tibias français, 100% français, sur mesure, accessibles à tous. Ils sont sur mesure, thermoformables. Ils ont déjà commercialisé 5000 premières paires de protège-tibias sur mesure et thermoformables.
Oui, et puis il y a ceux de nos amis de Tip Top, hein, Bakary Camara, qu'on avait reçu l'année dernière sur Europe 1, qui sont des protège-tibias connectés.
Et qui
cartonne effectivement aussi.
Et on s'est retrouvés dans l'émission, donc je lui passe le bonjour.
Et ben, nous aussi, on lui passe le bonjour parce qu'on l'avait reçu en avant-première l'année dernière sur Europe 1. On reste ensemble, on continue à parler de football aujourd'hui.
Il est 13h17.
Europe 1.
Et si vous pouviez aussi avoir des chaussures personnalisées avant d'entrer sur le terrain, c'est ce que développe WizWedge pour votre confort et aussi votre santé. A tout de suite.
Dans la France Bouge cet après-midi, on vous parle des innovations dans le domaine des équipements sportifs français. Vous pouvez réagir en appelant le 3921. Vous pouvez également nous écrire, Raphaël, via Twitter avec le hashtag Europe 1.
Ah oui, quand on joue au foot, hein, vous savez que la chaussure, c'est forcément l'essentiel, la forme, le confort, parce que le pied est très sollicité. Et c'est en travaillant avec des pros du côté de Marseille que l'idée de WizWedge est née. Bonjour Jean-Luc Guerre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir. Vous êtes podologue et c'est vous qui avez créé WizWedge. Vos chaussures sont innovantes, elles sont avec nous sur europe1.fr. Je disais que vous avez travaillé avec les pros de l'OM depuis 15 ans et vous avez aussi une activité de recherche dans le chaussage. Comment est-ce que vous avez conçu cette chaussure? Qu'est-ce qu'elle a de particulier?
Alors je présente donc une société de façon très horizontale avec beaucoup de professionnels de santé, de chercheurs, d'ingénieurs qui se sont un jour regroupés pour essayer de trouver des solutions pour prendre en charge les blessures chez le sportif, non pas les prises en charge traditionnelles. On est bien soigné en France, on a des brillants praticiens pour le faire, mais surtout sur les récidives des blessures. Donc des blessures orientées surtout au niveau de la chaîne musculaire postérieure, c'est-à-dire les muscles plantaires, le tendon d'Achille, le mollet, les ischio-jambiers, bref, qui n'a pas souffert un jour de ces fameux muscles en allant marcher, se promener ou courir, si bien qu'on a orienté nos réflexions sur quelles seraient les solutions pour avoir un chaussage bien dimensionné pour justement faire son sport avec moins de blessures.
Pour éviter les tendinites, les entorses, toutes ces choses aussi qu'on connaît tous.
Tout à fait. Donc c'est un projet qui a pris naissance il y a de nombreuses années, qui était fondé sur
10 ans de travail sur ces chaussures, 10 ans de recherche et développement.
Exactement. Donc au départ, c'est fondé sur des faits d'observation clinique, tant sur le terrain qu'en cabinet auprès de sportifs. On a recensé les pathologies les plus rencontrées pour essayer, après des prototypages nombreux, de définir ce que pourrait être la chaussure la mieux dimensionnée.
Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle s'adapte au poids, au terrain, c'est ça?
Exactement. Donc, c'est une chaussure qui est déjà personnalisable, qui déjà, à l'achat, peut être personnalisée au propre poids du sportif. Imaginez que vous ayez un jeune garçon de 15 ans qui pèse 50 kilos. Il a peut-être besoin d'une, on va dire, qualité d'amorti supérieure pour la même pointure d'un homme qui pourrait peser 80 kilos. Donc déjà, la chaussure est adaptable au poids et à la surface sur laquelle on pratique. Grâce à la movibilité intérieure, on peut enlever une partie intérieure de la chaussure et à discrétion, rendre la chaussure plus amortissante ou plus dynamique. Ce qui est bien qu'aujourd'hui, par rapport à un chaussage traditionnel du marché, on a des valeurs qui ont été certifiées après 3 ans de tests en laboratoire industriel et scientifique. Cette chaussure permet 80% de vibrations en moins dans les muscles et tendons, 40% de contraintes en moins dans les os, et 30% de renvoi. Donc on équipe d'ailleurs des professionnels du sport, rugbymen, footballeurs. À Caen, on a équipé Emmanuel Imourou, que vous connaissez bien.
Vous allez faire plaisir à Luc Le Sénécal.
Donc on est dans l'accompagnement des sportifs, on est vraiment dans l'innovation sport-santé, dans un canal, on n'est pas de front aux marques qu'on connaît bien. On est vraiment dans l'innovation et la recherche d'un produit bien dimensionné qui puisse permettre aux sportifs de faire son sport avec le minimum de blessures.
Alors, il y a la chaussure, pour ceux qui nous suivent sur Europe1.fr, et puis il y a, cette petite talonnette, voûte plantaire en plastique. C'est elle qui va venir corriger, c'est ça, à l'intérieur de la chaussure ?
Alors, c'est une partie du concept, en fait, parce que le concept, c'est à la fois l'architecture même de la chaussure, qui est renforcée avec un maintien de voûte en polyamide nylon, avec une élasticité supérieure au carbone. Et le petit élément que vous enlevez, c'est le drop de la chaussure. Qu'est-ce que le drop ? C'est le dénivelé entre l'arrière et l'avant, qui n'existait pas auparavant sur les chaussures de football, qui sont toutes extra plates. Or, aujourd'hui, un joueur de football qui se bouge un peu fait 10-12 km dans un match. Il suffit de faire 2-3 matchs par semaine à 10-12 km. Vous êtes facilement un marathon par semaine avec des chaussures souvent inappropriées. C'est comme si vous faisiez aujourd'hui un marathon en espadrille, ce qui serait peu ou pas convenable. Donc, on a une chaussure qui est bien dimensionnée et on a la possibilité donc d'avoir ce drop qui délaisse complètement la chaîne postérieure sans aucune nocivité au niveau postural.
Luc ?
Oui, plusieurs remarques. Je suis assez admiratif parce que 10 ans de recherche et développement, c'est fabuleux. Mais toujours un petit peu la question que j'ai posée tout à l'heure à Smart Power, comme le signalait Elisabeth, le marché, c'est le marché de la chaussure, c'est un marché de géants. Et vous vous associez pas avec moi, je serais un géant de la fabrication de chaussures, tout de suite je vous aurais présenté une association, quelque chose. Comment vous allez faire? Parce que c'est un
juste
marché très concurrentiel où il y a des sommes, des budgets colossaux pour sponsoriser, pour les joueurs sont tenus par des contrats, etc. Comment vous allez vous imposer?
On a été rapproché déjà par quelques grandes marques, hein, vous l'imaginez bien, depuis ces 2-3 dernières années.
Faites monter les enchères.
Aujourd'hui on prend de la visibilité. On va d'ailleurs être en 2020, c'est notre année d'implantation commerciale. On est déjà implanté dans 6-7 magasins en France. On va l'être également vers une orientation vers les spécialistes, puisque notre concept est même transposable à toutes les chaussures. Si bien qu'on a fait aujourd'hui des chaussures
ça
de trail,
pour le running.
De running. Donc c'est bon aussi bien pour un jeune sportif qu'un randonneur du week-end. Donc on a transposé ce concept à beaucoup d'autres chaussures et pas uniquement qu'à la chaussure de football. Et là, donc, c'est un marché qui est beaucoup plus large. On sait qu'aujourd'hui, on a à peu près 15 millions de pratiquants de runners contre 2 500 000 de licenciés football. Donc c'est un marché qui est encore plus large. Et c'est un concept qui est vraiment transposable à beaucoup d'autres chaussures.
Vous fabriquez où, c'est vous ?
Donc toute la conceptualisation est française. Il y a une partie de la conceptualisation en France. Et malheureusement, comme le soulignait le dirigeant de Smart Power, on a parfois, pour certains produits, pas l'outillage ni le savoir-faire en France. On est obligé de s'externaliser.
Qu'est-ce qui vous manque ? Vous allez en Asie pour une partie, en Italie pour une autre. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui en France ?
Le savoir-faire de certains polyuréthanes, de certains matériaux en EVA, en mousse, dans le thermoformage, ça ne se fait pas en France, on ne sait pas faire. On n'a pas l'outillage ni les moyens. Donc nous, on demanderait effectivement avec grand intérêt que tout soit développé dans du Made in France. La marque est française. On s'installe en fait comme un nouvel équipementier français, peut-être le dernier d'ailleurs, puisqu'on en a plus beaucoup en France, d'équipementiers français, sous le support de nos travaux de recherche. Donc on est vraiment dans l'innovation sport-santé-bien-être.
À mon avis, c'est tout à fait réalisable, parce que vous arrivez sur le marché très concurrentiel, avec une différence qui est
fondamentale.
Qui est fondamentale. Donc alliez-vous avec un grand, mais développez avec lui l'outil de fabrication.
L'outil de production.
Et il y en a en France, hein, il y en a encore.
Elisabeth,
vous dites que vous avez été approchée par des grands. Oui. Est-ce que c'est envisageable de fabriquer, mais pas sous votre marque, comme une marque comme des marques de distributeurs?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un premier temps, si on doit aller jusqu'au bout de nos rêves, c'est de quand même installer
la
le
marque,
projet
bien sûr.
À bout de bras et d'installer la marque et par extension tous les produits dérivés, puisqu'on est vraiment dans la recherche permanente sur tous les outils du sportif.
Donc vous préféreriez rester avec votre propre nom plutôt que de vous allier à Adidas ou à des grandes marques qui font de la chaussure de sport et de la chaussure de foot notamment.
C'est-à-dire qu'on n'est aujourd'hui pas du tout de front aux grandes marques, on est vraiment dans un canal différenciant totalement sur l'innovation sport-santé.
Justement, en tant qu'innovation, eux, ils sont à la recherche de ça sans arrêt, ils veulent évoluer, donc ça pourrait être une option, une possibilité pour ne pas se faire aspirer, justement.
C'est une très bonne remarque, et de façon optionnelle, c'est une réflexion qui pourrait arriver un jour, mais pour l'instant, on défend le franco-français et le fait de devoir donner tous les moyens sur ce projet.
On comprend tout à fait ici, dans
Vous
la France bouge, et on reste ensemble, on continue à parler innovation tricolore sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1,
Et si demain nous pouvions jouer au foot avec un ballon éco-responsable, un ballon éco-conçu? Eh bien, c'est ce que fait justement la start-up qui arrive. À tout de suite.
Aux côtés des chefs d'entreprise et de leurs équipes, AXA Prévention vous présente La France Bouge. Et à l'occasion de la fin du mercato, on parle foot, on parle de sport dans La France Bouge, avec à l'honneur les équipements français innovants dans ce domaine. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez poser des questions à nos invités, par exemple. Écrivez-nous sur Twitter, hashtag Europe 1 Raphaël.
Eh oui, pouvoir jouer demain au foot avec des ballons éco-responsables, des ballons éthiques, c'est possible, c'est le projet de Rebond. Simon Mechler, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui avez créé Rebond. Rebond, c'est une entreprise qui développe des ballons éco-responsables et qui sont made in France. Vous n'avez pas commencé avec les ballons ronds, vous avez commencé avec les ballons ovales, hein, quand vous étiez jeune.
Alors, on a commencé, ouais, c'est
Non mais vous, quand vous aviez 7 ans.
Oui, en effet, j'étais rugbyman, je jouais pendant de longues années. Et c'est d'ailleurs avec mon associé, qui lui était fan de ballons ronds, qu'on a décidé, en sortie d'études, de partir sur du ballon de foot, à la base. L'idée était d'amener du graphisme sur le ballon de sport, puisqu'on était à une époque où le graphisme sur objet de consommation prenait une place importante. C'était le début des maillots roses du Stade français, c'était l'époque des caleçons bariolés. Et nous, on s'est dit, mais pourquoi pas les ballons?
Et alors, pourquoi pas les ballons? Qu'est-ce qui se passe avec les ballons? On ne sait pas les produire en France?
Alors, en France, non. Il faut savoir que le dernier ballon produit en France date de 1974. Pour les connaisseurs, c'est le fameux Telstar, de la marque aux trois bandes. Et non, c'est un savoir-faire qui est purement pakistanais.
Pakistanais.
Ouais. En fait, il y a une région dans le monde qui est à cheval entre le Pakistan et l'Inde, qui s'appelle le Punjab. Et ils ont un savoir-faire qui est culturel, qui s'explique par l'époque coloniale anglaise. Et ils ont ce savoir-faire de produire du ballon à la main, qui a été inégalé d'ailleurs, puisque en Afrique du Nord, ils ont essayé d'en faire. En Chine aussi, alors ils en font en machine. La technique de production est différente. Mais tous les ballons que vous voyez de compétition actuellement sont réalisés au Pakistan.
Donc vous êtes allé là-bas pour essayer de comprendre et de voir comment vous pouviez travailler sur un ballon éthique.
Ouais, alors j'y suis allé, mon associé bien plus, il faut que je lui rende ça quand même. Mais en effet, on s'est déplacé sur place, on est allé chez les spécialistes du ballon et on a même commencé à travailler avec eux. La première société qu'on a montée, donc en sortie d'études, c'était avec le Pakistan qu'on travaillait. On travaille toujours avec eux d'ailleurs, parce qu'il y a un vrai savoir-faire là-bas, comme je le disais tout à l'heure. Et là-bas, on a appréhendé vraiment la technique de production du ballon, qui est un produit en fait très complexe. C'est pour ça que du design sur ballon ne se faisait pas. C'est un produit qui est artisanal. En fait, tous les panneaux que vous voyez sur un ballon de foot, il y a des pentagones, des hexagones. Il faut savoir qu'ils sont peints avant d'être assemblés. Donc, vous travaillez sur un produit, sur un patron à plat,
ouais, c'est un
qui est amené
artistique
à devenir 3D. Ouais, tout à fait.
Et alors, comment est-ce que vous avez l'idée d'aller plus loin, justement, avec la fabrication de ballons, justement, avec les logos des clubs? Comment ça se passe, les partenariats?
Eh bien, en fait, on lance une première marque qu'on diffuse en boutique de mode.
C'est Cube, c'est ça?
Exactement. Qu'on travaillait avec des artistes qui venaient dessiner sur le ballon. On a même eu des créateurs de mode. On s'est retrouvés sur des défilés de mode. Enfin, on a fait des choses sympas. À 22 ans, 23 ans, je pense qu'on ne comprenait pas trop ce qui nous arrivait, mais en tout cas, on a bien rigolé. Mais c'est un business qui n'était pas rentable.
Donc, vous cherchez autre chose.
Exactement. Et sortie d'études, bon, on vit avec peu. Et à un moment, on s'est dit, bon, faut quand même qu'on arrive à gagner notre vie avec ça. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'avec cette marque-là, on a eu une grosse diffusion presse, médiatique, puisque le ballon, en fait, est un produit qui parle à tout le monde. C'est un produit convivial et lorsqu'il est travaillé différemment, graphiquement, il attire l'œil. Donc ça a fait parler de nous. Et on a commencé à être contactés. En fait, c'est des appels entrants qu'on a eu au début. On avait une connaissance boutique, puisqu'on vendait dans des boutiques. On avait une connaissance du design. Et c'est ce que les clubs recherchent pour leurs produits merchandising, finalement. Puisque le ballon, en fait, c'est un achat coup de cœur. On ne va pas dans une boutique de supporters en disant « je vais acheter un ballon ». Je passe dans la boutique, c'est « oh, le ballon, il est sympa, je l'achète ». Et l'aspect design rentrait totalement dans ce wow effect et ça dopait les ventes en boutique, clairement.
Alors, qu'est-ce qui se passe en 2017? Vous vous rendez compte que le ballon n'a besoin de répondre à aucune norme quand il est importé en France et du coup, vous essayez de faire évoluer les choses?
Oui, en fait, c'est cette expertise du ballon qui s'est faite au fil des années qui nous permet de poser un constat. Et à un moment, le constat, il est le suivant, c'est que à l'heure où on parle d'éco-responsabilité, de respect de l'environnement où le monde change, clairement. Qui est votre slogan, d'ailleurs, je crois. Le ballon fait figure de mauvais élève. Et pourquoi ? Parce qu'il travaille avec des matériaux qui ne sont pas nobles. C'est-à-dire que le ballon de foot, on parle souvent de... Les producteurs parlent de simili-cuir, c'est un beau terme pour dire que le ballon, c'est du plastique. Voilà, donc c'est du PVC ou du PU. Et ensuite, il est contraint de répondre à aucune norme lorsqu'il rentre sur le territoire européen.
Même celui des professionnels ?
Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est du PVC ou du PU, souvent du PU sur les qualités haut de gamme.
Donc là, vous créez Rebond à l'été 2019, vous lancez une première collaboration, on le voit sur le ballon avec le FC Nantes. Et puis maintenant, il y a des choses qui sont en train de se développer, je ne me trompe pas Simon.
Tout à fait. En fait, ça fait bien 2 ans à 3 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Et on en parle au club du FC Nantes, puisqu'on est nantais, et que c'était déjà un de nos clients, en disant, voilà, nous on veut bouger les lignes de production du ballon, on veut faire du ballon un produit plus sain. Le sport est quand même porteur de valeurs fortes, que ce soit de solidarité, d'entraide. Et à l'heure actuelle, c'est quand même dommage que le produit qui soit au cœur du terrain ne soit pas justement porteur lui-même de valeurs fortes. Et donc, on se dit, il faut fédérer et sensibiliser. Donc, pour fédérer et sensibiliser, on lance une première campagne avec le FC Nantes sur Ulule autour d'un ballon éthique. C'est-à-dire que là, on se met des normes. On travaille avec toujours du PU, mais sans phtalate, pour le coup, avec des encres qui sont naturelles. On s'est donné un cadre et avec une usine qui respecte des normes fair trade.
Donc ça, c'est le ballon qu'on a là, mais il y en a un qui est en préparation pour 2020. Ouais. Celui-là, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Il va être fabriqué avec des matériaux biosourcés. Vous allez,
L'ambition est de développer du ballon, dans un premier temps, travailler en PVC recyclé et à moyen terme, travailler en matériaux biosourcés.
Et là, pour le coup, on est Made in France.
En parallèle à ça, on a développé une production Made in France, où là d'ailleurs, ce qui est intéressant par rapport à mon collègue à côté, c'est que dans le bassin nantais, on avait un gros savoir-faire dans la chaussure.
Oui.
Et il y a un savoir-faire qui est assez équivalent, même si ce n'est pas le même bien sûr. Sur la chaussure, vous travaillez sur des éléments à plat avant de les assembler, sur un produit rendu en 3D. Et donc, on a cherché un partenaire qui serait OK pour nous accompagner sur la conception de ballons. Ça a mis du temps, parce que quand vous venez voir une usine qui fait de la chaussure, vous leur dites, écoutez, ce serait cool que vous fassiez du ballon. Au début, ils vous regardent avec des grands yeux. Et puis, on a la chance d'avoir trouvé un partenaire avec qui on travaille maintenant depuis 1 an et demi sur l'élaboration de ballons de sport. Et donc, au mois de mai, un grand club français à portée internationale. On travaille une collaboration avec lui, en effet, sur un ballon Made in France.
On a quelques indices. Plutôt du nord, plutôt du sud.
Plutôt du milieu.
Bon. On a quelques minutes pour réfléchir, je suis sûre qu'on va trouver. On reste ensemble et on parle foot aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h38.
Europe 1.
Et on attend vos questions ou vos remarques, bien sûr. 3921, Twitter, La France bouge avec vous. A tout de suite. Europe 1.
Dans La France bouge cet après-midi, à l'occasion de la fin du Mercato, on parle, Raphaël, des équipementiers français de football avec vos invités.
Nous sommes avec Stéphane Raymond, fondateur de Smart Power, spécialisé dans les crampons à destination des sportifs. Jean-Luc Guerre, podologue du sport et fondateur de WizWedge, entreprise qui propose des chaussures innovantes dans le domaine sport et santé. Et Simon Meuchler, fondateur de Rebond, entreprise qui développe des ballons éco-responsables et made in France. Ils seront, Simon, arrêtez-moi si je me trompe, bientôt sur le marché, juste avant la prochaine compétition.
Exactement, juste avant l'été, juste avant l'Euro. Et on travaille sur un système de vente éphémère avec des précommandes pour produire exactement ce qui a été commandé et pas faire de surproduction.
Notre coach aujourd'hui, c'est Luc Le Sénécal qui a, je suppose, une question pour vous.
Oui, c'est une question aussi qui s'adresse un petit peu à vous trois. On voit bien que dans la mode, il y a l'éco-responsabilité qui se développe. Est-ce que c'est le cas, votre ballon, là, votre futur ballon? Mais est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez dans le milieu d'équipement sportif, cette prise de conscience, ou ça reste marginal?
Je pense que les clubs s'y intéressent de plus en plus. Il y a de plus en plus un attrait pour ça. Il y a d'ailleurs un club en Angleterre qui vient de lancer son stade 100% éco-responsable et durable tout en bois. Qui a eu l'aval de ça. C'est un club qui est de 4e division et pourtant ça fait un bruit énorme. Et je pense que les clubs sont friands de ça en tout cas, donc si on peut leur apporter une solution. En fait, leurs supporters et comme les clients de marque maintenant, c'est des citoyens qui cherchent un engagement. C'est-à-dire qu'ils n'achètent plus une marque pour leur image superficielle, mais pour des valeurs qu'il y a derrière. Et les clubs l'ont compris aussi, ce point-là.
Même question pour vous, hein, ou peut-être une réponse complémentaire.
Alors, moi, je n'ai pas de demande particulière sur l'éco-responsabilité. Par contre, le fait de ne pas avoir de demande là-dessus n'empêche pas la démarche citoyenne et individuelle qu'on peut avoir tout un chacun. Nous avons tous, je pense, des valeurs d'écologie. Mais en tout cas, dans le monde, dans le domaine du sport, je n'ai pas eu de demande particulière à ce sujet-là.
C'est envisageable pour la conception de vos chaussures?
Oui, tout à fait. On y travaille beaucoup, puisque c'est un sujet qui est quand même, on va dire, d'actualité et important, à ne pas négliger. Donc, sur la qualité de nos matériaux, bien sûr, on essaye à tout prix de travailler avec des produits qui puissent être recyclables. On essaye même, dans l'avenir, de pouvoir consigner nos produits, c'est-à-dire les récupérer et les amener vers des lieux de site pour recycler les produits proprement. Donc c'est, l'idée est fondamentale quand même, de pouvoir consommer, recycler avec des solutions les plus propres possibles.
Et on fera d'ailleurs vendredi prochain, Elisabeth, une émission sport durable, puisqu'il y a un premier forum qui se tient à Paris sur cette question. Et vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se créer. Je voudrais qu'on regarde aussi les chaussettes de foot made in France. Vous en avez trouvé?
Oui, des chaussettes de foot. Là aussi, c'est un marché qui se développe parce que, autrefois, on avait les footballeurs avaient des chaussettes hautes. Ils étaient proposés par les principaux équipementiers et les clubs et les joueurs. Maintenant, peuvent utiliser une chaussette 100% made in France, Rana Sport, R-A-2-N-A. C'est une entreprise strasbourgeoise qui fabrique donc ses chaussettes de foot dans le Limousin par l'entreprise familiale Brousseau. Et ces chaussettes Rana se concentrent sur les trois caractéristiques essentielles pour un footballeur: le maintien, la stabilité et le confort. Chaussettes 100% made in France. Rana.
Et puis les chevillères connectées aussi.
Oui, avec Sportback. Cette start-up commercialise ballons connectés, chevillères connectées. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle analyse en temps réel les données physiques et techniques. Parce que l'objectif, eh bien, c'est de décortiquer chaque performance de chaque joueur sur le terrain.
Oui, Simon, vous disiez, vous travaillez avec eux.
Oui, on travaille avec eux sur la réalisation des ballons. Ouais. En effet.
Y a effectivement beaucoup de passerelles comme ça entre les uns et les autres dans ce milieu de l'équipement français. Vous connaissiez, vous arrivez à concevoir des projets ensemble?
On s'est déjà croisés, hein, bien sûr, parce qu'on est souvent sur des forums, on se pose les mêmes questions au même moment. Hein,
vous n'êtes plus très nombreux finalement.
Vous parliez du matériel embarqué, connecté, qui est très important. C'est un sujet sur lequel on travaille également. Nos chercheurs et ingénieurs travaillent aussi, justement pour pouvoir avoir des réponses un peu atypiques, immédiates sur le sport, sa pratique, et au niveau de la fonctionnalité, justement, de la protection du sportif, grâce à des retours d'informations inédites, grâce au wedge amovible. Donc c'est un gros travail qu'on fait et qu'on mène en ce moment.
Stéphane Armand.
Alors ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on voit qu'il y a plein d'idées, il y a plein de produits, il y a des entreprises novatrices dans le football.
Oui.
Est-ce qu'un jour, on sera capable d'équiper un club de Ligue 1 ou de Top 14 intégralement made in France? On a des crampons, des chaussures, des protèges tibias, des chaussettes.
On a tout ce qu'il y a pour le faire.
Voilà. On a également un équipementier comme le Coq Sportif,
oui,
qui a pignon sur rue, qui a une belle notoriété. Donc, ça serait une telle aventure d'équiper un club de Ligue 1 ou de Top 14.
Et je pense que relocaliser en France, c'est apporter une différence. Et vous, tous les trois, vous apportez une différence, soit technique, soit éthique, soit dans tout ce qui est recyclé. Et c'est pour moi, c'est un atout fondamental pour relocaliser en France. Et il y a des fabricants en France qui recherchent des marques comme vous, enfin des produits comme vous.
Il faut que les clubs suivent maintenant.
Voilà, l'appel est lancé au team manager. Ouais.
C'est le moment là, ça y est,
sens que les projets sont en train de naître ici dans le studio d'Europe
1. Je sens mon téléphone qui vibre.
Ça me ravive. Tant mieux. Vous nous donnerez des nouvelles. Moi, je voulais vous poser une dernière question qui me vient de l'autre côté de la vitre, de mon réalisateur Nicolas Charpentier, qui n'a pas composé le 39-21, mais c'est presque tout comme. Il nous dit, les crampons, finalement, est-ce que ça ne peut pas être considéré alors comme un élément de dopage? Pas de dopage, mais oui. Je pense aux combinaisons, par exemple, des nageurs qui ont été interdites. Est-ce que ces crampons-là, ça peut être finalement un élément de différence avec les autres joueurs sur le terrain?
Alors, si vous vous posez la question, c'est que vous êtes convaincu de notre produit. Ça veut dire que vous êtes convaincu que nous amenons quelque chose.
On va plus vite avec, forcément, ça crée une différence avec le joueur adverse.
Alors, on peut se poser la question pour tous les équipements, finalement. Quand Nike ou Adidas sort une chaussure performante, effectivement, la question est pertinente. L'exemple des combinaisons est intéressant parce que les combinaisons avaient été réservées à des nageurs et donc ça a créé une différence qui était anormale dans la compétition. Nous serions ravis que tous les footballeurs du monde entier soient équipés de nos crampons. On n'en est pas encore là, Donc pour l'instant, nos crampons sont disponibles à la fois pour tout footballeur et rugbyman et à la fois pour toutes les marques.
Oui, et tant mieux si ça fait courir certains d'entre eux beaucoup plus vite.
Exactement, exactement. D'ailleurs, il y a eu un exemple récemment d'une glissade célèbre puisque le joueur N'Golo Kanté contre le match contre Arsenal a malheureusement glissé un peu une glissade à la Steven Gerrard. Et la punition a été immédiate, donc on voit bien que l'impact sportif et indirectement financier est important.
Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui sur Europe 1 nous parler football, mais d'une autre manière, avec ce Made in France qui est en train de repartir. Et on en est ravis.
Il est 13h47.
Europe 1.
Et on reste ensemble, on va s'intéresser à une entreprise française, 1890. C'est Gibault et c'est l'entreprise qui va bien.
Oui, on la découvrira, Raphaël, juste après un peu de musique. On écoute Stéphane Echer de retour avec un nouvel album, Homeless Song. On écoute un extrait de ce nouvel album, c'est Monsieur, je ne sais pas trop. Et c'est maintenant sur Europe 1. Excellent après-midi à tous, dans La France Bouge.
Europe 1, La France Bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, eh bien, c'est Gibault, tisseur de soins, et ce depuis 1890. Bonjour Laurent Devillers.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui dirigez désormais cette entreprise dont l'histoire commence à Saint-Étienne. La famille Pichon va faire une rencontre, je crois, avec un médecin qui veut traiter les maux de dos. Il se trouve que la famille Pichon, elle est dans le textile industriel.
C'est tout à fait juste.
C'est comme ça que ça démarre.
Tout à fait. C'est comme ça que ça démarre. Donc, c'est une rencontre entre un industriel du textile, donc M. Pichon, et un médecin, le docteur Gibault, qui ont une vision, c'est le textile de soins. En fait, ils ont compris que le textile a des propriétés tout à fait particulières, des propriétés mécaniques sur la compression, le maintien, la chaleur, la proprioception, et que ça permet de soigner de façon très précise et de soulager la douleur.
Et donc, c'est comme ça qu'ils vont créer les premières ceintures en flanelle, parce que la flanelle a une particularité, c'est qu'elle réchauffe.
Tout à fait. Et ça a servi au départ, pendant la Première Guerre mondiale.
Pour les soldats.
Pour les soldats.
Absolument. Ils se bandaient les reins, hein, c'est
tout
ça.
Tout à fait, pour avoir les reins au chaud et éviter les douleurs liées à l'humidité.
Comment est-ce que l'activité se développe après-guerre ?
Donc après, l'activité, elle s'est orientée plus sur le soin orthopédique dans une première partie, avec la fameuse ceinture Gibault, et puis une diversification qui s'est faite dans la compression médicale ou le soin des jambes, et puis plus récemment, dans les années 2010, sur le soin du pied avec des produits orthopédiques.
Oui, vous avez travaillé de nouveaux tissus aussi, hein, qui sont arrivés, des tissus beaucoup plus techniques, si j'ose dire, qui permettent d'autres choses, d'autres développements.
Tout à fait. Donc le textile a considérablement évolué depuis 1890 et permet d'innover. C'est d'ailleurs un produit naturel. On utilise des produits comme la laine, comme le coton ou des produits de microfibres qui permettent justement de faire cette compression, ce maintien, la chaleur tout à fait innovante.
Oui, et puis date importante, vous parliez des années 2000, vous avez fait l'acquisition de Tournier Boutu qui est une entreprise spécialisée dans la compression médicale qui est en France, hein, qui est dans l'Ain. Ça a permis aussi d'autres innovations.
Tout à fait, c'est d'autres innovations. Donc là, c'est sur le soin de la jambe avec la compression médicale dans le cas de l'insuffisance veineuse. Donc avec l'acquisition d'une usine qui est localisée aujourd'hui à Trévoux et qui fabrique 100% de nos produits que vous avez ici.
Qui sont ici avec nous sur Europe1.fr. Alors justement, la fabrication française, tout est fait en France ou une partie seulement ?
Alors, on a dans le cas de la compression veineuse la totalité des produits qui sont fabriqués en France. Et ensuite, dans le cas des produits orthopédiques, en s'appuyant évidemment sur nos compétences et notre savoir-faire historique des usines de Saint-Étienne, hein, depuis 1890, on fabrique une partie de nos soins orthopédiques en France. C'est ce que vous avez ici.
Et une autre partie en Espagne et en Italie.
Une autre partie dans d'autres zones d'assortiment en Europe.
Notre coach.
Oui, vous êtes historique, vous avez un savoir-faire exemplaire, vous fabriquez en France, vous n'êtes pas encore entreprise du patrimoine vivant, vous n'êtes pas EPV ?
Alors c'est une bonne question, c'est un souhait que nous avons de
le moment.
Faire.
Ah bah vous avez tous les critères, c'est le moment de faire la demande. Donc nous avons avec vos produits, vous arrivez après le match, quoi, quand les joueurs sont un peu blessés.
Oui, vous avez vu, on est
voilà, par rapport au football, exactement. Le football, on a tout ce qu'il faut, tous les produits, à la fois aussi pour les soins orthopédiques, mais aussi pour la récupération avec la compression. Mais vous avez raison, oui, on pourrait faire partie
du label EPV.
Absolument.
Vous avez été intégré à un groupe qui est le groupe Aussure, on dit Aussure ?
Aussure.
Je ne connais pas bien la prononciation. Qu'est-ce que ça a apporté à Gibo ? Ça, une extension sur d'autres marchés peut-être ? Une internationalisation ?
Donc, le groupe Aussure est un des leaders mondiaux de la prothèse, donc dans le cas d'amputations. Et ce qui nous a apporté pour nous, c'est une possibilité à l'international, mais aussi des fortes compétences, capacités d'innovation et de recherche. D'ailleurs, le centre de recherche textile mondial du groupe est situé à Saint-Étienne. C'est-à-dire que c'est aussi Gibo qui a contribué au développement textile du groupe à l'international.
Oui, Gibo et l'histoire à Saint-Étienne continue de s'écrire. Hein. Il y a quand même une grosse partie de vos effectifs qui sont restés finalement là où tout a commencé.
Absolument. Donc avec nos usines, notre usine de Saint-Étienne et le siège qui est aussi à Saint-Étienne.
Vous avez deux usines, hein, c'est ça ?
Tout à fait. Et une autre usine qui est située à Trévoux, donc dans le nord-est de Lyon. Et nous avons donc nos tisseurs de soins sur nos deux sites.
365 collaborateurs, 4000 références de produits dans votre catalogue, un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 47 millions d'euros. La suite, c'est quoi pour Gibo ? Pour continuer à écrire l'histoire ? Parce que là, c'est quand même une maison qui a 130 ans.
Tout à fait. La suite, eh ben, elle va s'appuyer sur nos racines historiques, parce que c'est ce qui a fait notre succès, tisseur de soins. Le choix des textiles de soins que nous avons fait, mais aussi tisseur de liens, c'est-à-dire notre capacité à tisser des liens avec le monde médical, les spécialistes de la santé, tisser des liens avec les universités, les centres de recherche, tisser des liens avec nos clients, tisser des liens avec les pharmaciens, c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Et il y a toujours plein d'innovations dans le textile qui nous permettront de faire des produits orthopédiques ou du soin des jambes ou du pied qui sont de plus en plus beaux, de plus en plus confortables et de plus en plus efficaces. C'est ça notre avenir.
C'est Gibo 1890 et c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous raconter une partie de son histoire aujourd'hui sur Europe 1. Merci à Luc Le Sénécal.
Merci à vous.
D'avoir été avec nous. Notre coach aujourd'hui, Elisabeth Céline. On se
donne
rendez-vous.
Bonne fin de semaine.
Lundi, midi sur Europe 1.